Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Richard de Seize.
Bonjour chers amis, bienvenue sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie avec toute l'équipe. Debout les Français, ce sera avec Wadi Hakel. Nous parlerons d'Israël et du Liban, espoir ou catastrophe, nous verrons bien. Le grand entretien avec Philippe Nicolardo nous permettra de tirer les leçons des guerres actuelles en Ukraine et Iran. Et enfin, nous débattrons avec Anne Sicard des conseils municipaux. Sont-ils devenus le nouveau canal de pénétration islamiste en France ou non? Et enfin, Alexandre de Gazin, notre envoyé spécial en Hongrie, eh oui, nous dira si Viktor Orban va chuter ou non. Nous sommes le 10 avril. En 1938, c'était le début du troisième mandat d'Édouard Daladier comme président du Conseil. Ça lui permettra de signer les accords de Munich 5 mois plus tard. Les radicaux socialistes ont toujours pactisé avec les ennemis de la France. Et tout de suite, un petit mot d'actualité.
La justice confirme finalement l'absence de drogue dans l'affaire impliquant Rima Hassan lors de sa garde à vue. Pour rappel, la députée européenne insoumise avait été placée en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour usage, transport et détention de stupéfiants après des soupçons liés à la présence supposée de drogue de synthèse dans son sac. Selon les premières informations relayées, dont le porte-parole de Gérald Darmanin est encore suspecté d'être à l'origine de la fuite, quelques grammes de substances suspectes auraient été retrouvées lors de sa convocation.
On prend les mêmes et on recommence.
Et oui, Paris est abonné à la gauche et en redemande, tout en s'étonnant des méfaits qui se répètent. Alors qu'il promettait pendant la campagne de faire des économies massives à la ville de Paris, Emmanuel Grégoire se retrouve déjà au cœur d'une polémique. Le nouveau maire souhaite maintenir une majoration de 25% des indemnités pour lui-même et plusieurs élus parisiens. Résultat, une rémunération qui atteindrait près de 9 700 € mensuels pour le maire. Officiellement, l'exécutif parisien assure qu'il ne s'agit pas d'une augmentation, mais simplement de la reconduction d'un dispositif déjà en place sous Anne Hidalgo. Une ligne de défense qui peine à convaincre. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent, dénonçant une déconnexion totale alors que la capitale est lourdement endettée et que des efforts budgétaires sont demandés aux Français. Parallèlement, Éric Ciotti propose de baisser les indemnités des élus niçois. On l'écoute.
Au-delà du courage de la vérité, une seule attitude sera désormais possible. Le sérieux budgétaire. Et le sérieux budgétaire, mes chers collègues, commencera par soi-même. Mes chers collègues, l'argent public est rare. Il impose des devoirs exigeants dans son maniement. La prudence, l'intégrité, naturellement, la transparence toujours. Mais il exige aussi respect et humilité pour le citoyen contribuable. Nous demanderons des efforts à tous, mais nous devrons d'abord en consentir nous-mêmes. C'est pourquoi, à compter de ce mandat, je le dis, les indemnités des élus de la métropole seront réduites d'un tiers. Nous économiserons ainsi près de 700 000 € par an, soit 5 millions d'euros pour la mandature. Cette décision ne relève pas du gadget de communication ou du symbole. Elle inaugure une nouvelle ère budgétaire. Elle ouvre un nouveau chemin de responsabilité, de respect et de confiance.
C'était Éric Ciotti.
Encore une décision aussi honteuse que scandaleuse.
Et c'est le moins qu'on puisse dire dès Carlos Braun, assassin d'une réfugiée ukrainienne de 23 ans, Irina Zarutska, tuée dans un bus aux États-Unis en août 2025, a été déclarée mentalement inapte à être jugée par la justice locale. Une décision prise après expertise psychiatrique qui entraîne un report du procès, comme si être fou n'était pas le propre d'un meurtrier. Une décision choquante qui a enflammé la toile, surtout aux États-Unis, alors que l'attaque d'une extrême violence avait été filmée et largement diffusée.
Et à l'occasion de la Pâque orthodoxe, Vladimir Poutine baisse les armes.
Et c'est cela, Vladimir Poutine annonce un cessez-le-feu temporaire en Ukraine à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Les combats devraient être suspendus du 11 avril à 16h, enfin 15h en France, jusqu'au 12 avril 2026 au soir, selon un communiqué du Kremlin. Une trêve qui se veut symbolique alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine se poursuit depuis désormais 4 ans.
Et enfin, pour le sport, une bonne nouvelle pour un cycliste français.
Et oui, il ne cesse de nous épater. Paul Sexas consolide son maillot de leader du tour, sur le Tour du Pays Basque. Malgré la victoire d'étape de Alex Aramburu ce jeudi à Galdhakao, il a creusé l'écart dans la dernière descente, ce qui lui permet de renforcer son avance au classement général.
Et alors, va-t-il faire beau aujourd'hui ? Déjà, il fait froid.
Oui, et ben aujourd'hui, il y a un ciel qui est voilé. Un ciel voilé vous attend sur la moitié sud du territoire. Au nord, la grisaille revient de la Normandie jusqu'en région Grand Est, en passant par l'Île-de-France et la région Nord. Les températures ce matin vont de 11 degrés à Reims jusqu'à 24 degrés à Perpignan. Et cet après-midi, vous aurez 17 à Paris, 23 à Lyon et 25 à Bordeaux. Et en ce vendredi 10 avril, nous célébrons Saint-Fulbert et le bienheureux Nero qui a été enlevé par des pirates, qui a été conduit de force en Afrique. Pour ne pas devenir esclave, il est devenu musulman. Il a eu la faiblesse d'apostasier et de se marier, mais avec le secours de la grâce divine un jeudi saint, il reprit en public son habit religieux et, frappé d'une grêle de pierre, il expia ses fautes.
Voilà. Merci beaucoup pour ce beau témoignage.
Ligne droite.
Et on enchaîne avec votre décryptage.
Oui, chers auditeurs, il y a un chiffre que le gouvernement met en avant comme une réussite. En 2025, l'administration fiscale a réclamé 17,1 milliards d'euros de droits et de pénalités pour fraude fiscale. Un niveau jamais atteint jusque-là, et c'est une hausse significative par rapport à 2024, où environ 15,2 milliards avaient été redressés, ce qui montre une progression nette en un an. Alors sur le papier, c'est présenté comme une victoire. L'État traque mieux la fraude, récupère plus d'argent et montre qu'il reprend la main. Bercy met notamment en avant l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle, entre autres, qui permettent de cibler plus efficacement les comportements suspects et d'augmenter les contrôles. Mais quand on regarde de plus près, ce n'est pas si simple. D'abord, il faut comprendre ce que signifie ce chiffre. Ces 17,1 milliards, ce sont des montants réclamés, pas nécessairement encaissés. Une partie de ces sommes fait l'objet de contentieux, de négociations ou de délais de paiement, ce qui signifie que tout n'est pas effectivement récupéré par l'État. Ensuite, ce record nous fait demander si c'est la fraude qui augmente ou si l'État la détecte mieux. Eh bien, les autorités fiscales expliquent que l'amélioration des outils permet de détecter des fraudes auparavant invisibles, notamment dans les montages complexes ou internationaux. Mais si on découvre aujourd'hui des milliards supplémentaires de fraudes, cela veut dire qu'ils existaient déjà. Autrement dit, pendant des années, ces montants ont échappé au radar. Ce record est donc aussi l'aveu d'un retard. Et surtout, il révèle une contradiction. D'un côté, un système fiscal toujours plus compliqué, toujours plus instable, toujours plus difficile à comprendre. Et de l'autre, un État qui s'étonne que cette complexité produise de la fraude. Parce que plus un système est illisible, plus il devient contournable, le problème est là, car dans le discours officiel, tout est mélangé, on parle de fraude fiscale comme d'un bloc unique, mais dans la réalité, il y a des écarts énormes entre les erreurs individuelles et les fraudes organisées, entre les petits redressements et les montages sophistiqués, et surtout entre les fraudes simples et les fraudes structurées, notamment à la TVA, qui représentent une part majeure des montants détectés. Et pourtant, la réponse reste la même, plus de contrôle, plus de surveillance, plus d'outils. Alors, pourquoi un système produit-il autant de fraudes ? Eh bien parce qu'il est excessivement complexe, parce qu'il est changeant, parce qu'il est lourd et surtout parce qu'il crée lui-même des zones grises. L'État communique donc sur les montants récupérés, mais ne remet jamais en cause ceux qui les produisent. On préfère multiplier les contrôles plutôt que simplifier, on préfère traquer les effets plutôt que corriger la cause. Et pendant ce temps, les fraudes les plus complexes restent aussi les plus difficiles à recouvrir, ce qui limite concrètement l'efficacité réelle de ces annonces. Ce chiffre de 17,1 milliards d'euros qui est présenté comme une réussite raconte surtout un système qui laisse filer pendant des années avant de se féliciter de rattraper une partie. Il raconte un État qui complexifie puis contrôle, qui empile puis sanctionne. Le problème reste, un système qui produit de la fraude à grande échelle n'est pas seulement un système bien contourné, c'est un système qui est mal conçu. Donc on pourra annoncer tous les records que l'on veut, on restera dans la même logique qui est de gérer les conséquences sans jamais songer à corriger le modèle.
Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite. Debout les Français.
Et debout les Français, c'est avec Wadi Akel, avocat libanais, avec qui nous allons parler de la situation au Liban. Bonjour maître.
Bonjour monsieur.
Alors, évidemment, lorsqu'on a pris contact avec vous, le Liban venait de connaître l'attaque israélienne la plus sévère et la plus incroyable. Plus de 300 morts, plus de 1000 blessés, et évidemment des dizaines et des centaines d'immeubles et d'appartements détruits. Et coup de miracle, peut-être, on annonce une trêve hier soir, trêve évidemment fragile. Comment la population libanaise accueille-t-elle cette trêve?
Trêve, je ne sais pas pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas une trêve pour l'instant au Liban, mais certes, ce que nous subissons aujourd'hui à Beyrouth et sur l'ensemble du territoire libanais, ce n'est pas un simple conflit, c'est une agression israélienne directe. Et au regard des faits, c'est un crime contre l'humanité. Cher monsieur, on tente de nous vendre l'image d'une guerre technologique, d'une frappe, d'une précision chirurgicale. Mais la réalité sur le terrain dément ce narratif marketing. Ces bombardements fauchent des centaines de vies civiles, des pères, des mères, des enfants qui n'ont absolument aucun lien avec les tambours de la guerre. Ce qu'ils ont fait, les Israéliens, hier et avant-hier à Beyrouth, c'était terrifiant. Chaque immeuble qui s'effondre est la preuve que la distinction entre cibles militaires et zones résidentielles n'est plus qu'une fiction juridique. À Beyrouth, à Tyr, dans le sud, au Mont-Liban et un peu partout. Ce qui est le plus glaçant, c'est cette normalisation du chaos. Le droit international, cet édifice qui est construit pour protéger les plus vulnérables, est aujourd'hui foulé aux pieds avec une désinvolture totale. Israël semble agir dans une impunité absolue, faisant fi des conventions de Genève, par exemple, comme si elle n'était que la suggestion facultative. Cette absence de réaction internationale qui reste, là je trouve que les Français, déjà, ils prononcent bien et il essaye d'aider le Liban ou bien d'autres pays, mais cette réaction mondiale est un aveu de faiblesse juridique. Si le droit, cher monsieur, ne protège plus le Libanais, il ne protégera bientôt plus personne. Nous ne pouvons plus nous contenter de statistiques froides. Il y a des centaines de morts, des milliers de blessés. Nous parlons de destins brisés, de familles complètement déracinées. Et d'un peuple qui refuse d'être le dommage collatéral d'une géopolitique cynique dans la région. Le droit à la vie, à la sécurité, pour les Libanais, c'est un droit universel. Pourtant, pour nous, aujourd'hui, il semble être devenu un luxe qui est inaccessible, complètement inaccessible. Chaque maison détruite est un témoignage de l'échec d'une conscience universelle.
Alors effectivement, Benjamin Netanyahou et son armée ont décidé d'envahir le Liban et sous le prétexte d'exterminer le Hezbollah et ils ont décidé aussi qu'ils allaient en fait conquérir le Liban. À défaut de l'avoir décidé, en tout cas ils le proclament par la voix de certains de leurs ministres en expliquant qu'il faut aller jusqu'au Latani et donc il y aurait une nouvelle portion du territoire libanais qui en fait deviendrait israélien. Ce n'est pas la première fois qu'Israël envahit le Liban, c'est toujours à cause du Hezbollah. La population libanaise voit-elle le Hezbollah comme la cause de ses malheurs ou au contraire considère-t-elle que c'est le Liban qui est attaqué?
Cher monsieur, pour expliquer un peu, je dois retourner quelques années dans l'histoire libanaise qui est une histoire sanglante. Le Liban lui-même ne cherche pas la guerre. La grande majorité de notre peuple ne demande qu'une chose, c'est de vivre en paix. Mais l'histoire nous est tombée dessus. Depuis l'exode des Palestiniens de leur terre en 1948, le Liban paye une facture exorbitante pour des conflits qui ne sont pas les siens. Les problèmes ont commencé avec Israël depuis 1948 et non pas depuis 1982 quand le Hezbollah il a commencé ses activités militaires au Liban. Notre terre est devenue malgré elle le théâtre où se jouent les partitions sanglantes des puissances régionales et internationales. Dans les années 50, nos problèmes, c'était à cause du grand conflit entre les États-Unis et l'Union soviétique qui était représenté par Nasser dans notre région, par les Palestiniens armés au Liban à cette époque. Et on a eu des conflits militaires avec Israël. Donc nous sommes les victimes d'une instrumentalisation de nos propres clivages politiques par des forces qui nous dépassent. Le Liban est plongé dans un abîme car il a été transformé en un terrain d'expérimentation. Tout à fait, c'est un terrain d'expérimentation pour les ambitions des uns et des autres. Ce n'est pas une guerre libanaise. C'est la guerre des autres sur notre sol. Le citoyen libanais se retrouve pris au piège d'une équation où il n'est qu'une variable d'ajustement. Cette exploitation de notre souveraineté a conduit à une érosion totale de notre stabilité. On utilise notre géographie entre la Syrie, entre Israël, on utilise nos tensions. Et on sacrifie notre jeunesse pour des intérêts qui se décident à des milliers de kilomètres, des fois de Beyrouth. Il est temps que ça s'arrête. Nous, comme Libanais, nous ne voulons plus être une boîte aux lettres pour les messages sanglants entre puissances. Maintenant, c'est la guerre entre l'Iran et Israël, et nous, on paye le prix au Liban. La neutralité et la souveraineté ne sont pas des slogans. À Beyrouth, ce sont des nécessités de survie humaine. Et pour cela, le Liban doit cesser d'être un champ de bataille par procuration pour redevenir une nation. Et on tient bon pour l'instant à Beyrouth pour que notre destin appartienne enfin à nos citoyens.
Alors, Benjamin Netanyahou, qui a décidé donc de ces frappes et qui les a permises, qui les a ordonnées, a expliqué que les frappes contre le Hezbollah se poursuivraient pour, je cite, rétablir la sécurité pour les habitants du nord d'Israël. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que Benjamin Netanyahou est en train d'assurer la sécurité des habitants du Liban ?
Ah, surtout pas, surtout pas. Il s'en fiche carrément des Libanais, des citoyens libanais. Et l'exemple le plus choquant, c'était ce qui s'est passé à Beyrouth il y a moins que 24 heures. Et partout, c'est pareil. Je ne vais pas citer seulement Beyrouth. Je cite tout le Liban et les Israéliens, Netanyahou, l'armée israélienne. Ils s'en fichent à ce qu'un quartier soit résidentiel ou pas. Les bombardements, on subit les bombardements israéliens par tous les Libanais, même que la majorité des morts jusqu'à maintenant ne sont pas des militaires, ni du Hezbollah, ni d'autres. La majorité, ce sont des civils libanais, des enfants, des femmes, des familles tout entières. Une cimetière au Bekaa était la cible des missiles israéliens. Donc, ce n'est pas le cas, ce n'est pas surtout pas le cas que l'armée israélienne ou Benjamin Netanyahou, ils s'en doutent des Libanais ou bien des civils libanais. Et là, je dois bien signer, monsieur, que les problèmes au Liban, que des fois les gens d'ailleurs, ne savent pas que la réalité, elle est beaucoup plus difficile que ça au Liban qu'une simple terreur armée pour l'instant, puisque le Liban, depuis 2019, il a subi l'une des plus grandes escroqueries financières de l'histoire. 120 milliards de dollars, les économies de toute une vie des Libanais se sont volatilisées dans les méandres d'un système bancaire défaillant. Et c'est un siège financier que nous subissons depuis plus que 6 ans. Et c'est ajouté l'explosion apocalyptique du port de Beyrouth en 2020. Vous vous en rappelez, bien sûr, le 4 août 2020. Et puis l'effondrement total de la monnaie. Et ça, ce n'était pas le hasard qui nous a tiraillés sur tous ces phénomènes désastreux. Les Libanais, donc, se sentent pris en étau, otages entre l'enclume iranienne et le marteau israélien. Nous n'avons plus de soupape de sécurité. Le peuple est devenu le bouclier humain de tensions sécuritaires permanentes. Nous vivons dans une pression double, la menace des bombes au-dessus de nos têtes et l'angoisse de la faim dans les foyers libanais. Il y a une absence totale de balance entre la brutalité des frappes israéliennes et l'absence criante d'une capacité de défense nationale structurée. Le Liban ne peut pas payer pour l'instant pour former une armée de défense libanaise qui peut survivre contre l'armée technologique superpuissante israélienne. La paix ne viendra pas via une guerre ou bien une défense armée. C'est un sentiment d'impuissance de voir sa maison s'écrouler ou ses économies disparaître sans pouvoir se défendre. L'âme de la nation libanaise, elle est complètement rongée. Le Libanais est devenu un survivant professionnel. Mais la résilience, elle a ses limites.
Oui, la résidence a ses limites. Et là, s'il nous reste juste une minute, Benjamin Netanyahou donc prétend continuer à assurer la sécurité des Libanais en les bombardant. Le chef d'état-major de Tsahal a expliqué que son armée allait continuer à combattre le Hezbollah avec une grande intensité. À votre avis, cette trêve va-t-elle malgré tout se maintenir fragilement pendant quelques jours ou, dans les faits, le massacre d'hier va-t-il en fait n'être que le début d'une longue série d'attaques continuelles au prétexte d'assurer votre liberté ? Il ne reste plus que 45 secondes, pardonnez-moi.
Ah oui, non, monsieur, nous regardons l'avenir avec une inquiétude légitime. Le futur nous apparaît gris, presque opaque. Dans un Moyen-Orient au bord d'un effondrement géopolitique majeur, et on est le cas. Mais je tiens à mentionner que dans ce chaos, nous, les chrétiens du Liban, portons une responsabilité historique. Malgré les pressions, nos villages du Sud résistent et nos villes partout ailleurs ouvrent leurs bras aux déplacés de toute confession. Cette solidarité est notre réponse à ceux qui veulent nous diviser ou bien tuer l'âme du Liban. C'est notre dernier rempart et malgré l'obscurité ambiante, malgré les bombes et les complots, nous portons en nous la flamme d'une espérance qui ne pourra éteindre. Et c'est ici, au Liban, dans la Terre Sainte, que nous sommes nés et c'est ici que nous bâtirons demain et nous continuerons à combattre. Et merci pour vous, merci pour vos sentiments et merci pour nos pensées. Vous nous aidez beaucoup en faire passant nos paroles pour l'extérieur, pour la France, pour les chers Français.
Merci beaucoup, maître, et nous vous souhaitons évidemment tous les courages.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Chers amis, il est 7h24. Bientôt, Alexis Poulain nous rejoindra dans le entretien qui va commencer avec Philippe Nicolardo, avec lequel nous allons entamer un grand entretien sur l'Iran et aussi évidemment l'ensemble de ses guerres contemporaines.
Ligne à droite. Le grand entretien.
Et donc ce grand entretien, c'est avec Philippe Nicolardo, ancien contrôleur général des armées et d'ailleurs patron d'émission sur Radio Courtoisie. Bonjour monsieur.
Bonjour Richard.
Nous sommes convenus de parler de la manière dont les opérations en Iran et pourquoi pas d'ailleurs aussi en Ukraine se déroulent du point de vue des militaires et uniquement du point de vue des militaires. Cette guerre, qui d'ailleurs reprend en partie les leçons de la guerre ukrainienne, est d'une certaine manière neuve et étonnante parce que c'est une guerre asymétrique avec d'un côté une puissance internationale, les États-Unis, une puissance régionale, Israël, qui ont des capacités technologiques incroyables, qui ont une puissance de feu incroyable. Donald Trump ne cesse d'ailleurs, avec des hyperboles et des superlatifs, de saluer le nombre incroyable de soldats envoyés, le nombre de pizzas qui ont été dévorées, puisque c'était l'une des conférences de presse du chef des armées américaines il y a deux jours. Donc il mettait en avant les hectolitres de café bu par ses troupes comme étant un indicateur évidemment de l'engagement de la nation américaine aux côtés d'Israël contre l'Iran. Et on se retrouve avec néanmoins un pays qui est censé être technologiquement moins capable, qui est censé être financièrement évidemment bien en deçà d'Israël et des États-Unis, et qui réussit à produire des munitions à bas prix, qui réussit à tenir en échec cette invasion. Comment un militaire juge-t-il cette guerre asymétrique ?
Bien, tout d'abord, on peut dire que vis-à-vis de l'Iran, on s'est focalisé sur sa capacité ou ses intentions à acquérir l'arme nucléaire. Mais on s'est peut-être, en France au moins, moins focalisé sur ses compétences en matière balistique. Et c'est peut-être un des enseignements majeurs de ces 40 jours de conflit, c'est le rôle, l'utilisation et la place des missiles balistiques dans ce type de conflit, ce qui montre que, contrairement à ce que certains pensaient, l'Iran n'est pas une puissance mineure et que pour développer ces technologies en matière balistique, ça suppose un soubassement scientifique, technologique et industriel qui indique bien que l'Iran se positionne comme une puissance régionale majeure. Et donc, on y reviendra peut-être, mais il y a peut-être là aussi une question, une erreur d'appréciation sur les capacités technologiques de l'Iran et sur la capacité de son commandement à coordonner, tout en les décentralisant, toutes ces opérations. Donc je pense que oui, c'est un conflit asymétrique, mais enfin, peut-être pas asymétrique que ça quand on réfléchit à ce qu'est devenu, malgré les embargos, l'Iran aujourd'hui.
Alors, l'Iran a effectivement étonné le monde avec... D'abord, beaucoup plus de missiles qu'on imaginait, et on se souvient qu'au fur et à mesure que la guerre se prolongeait, les Américains déclaraient, et les Israéliens, avoir détruit 70% des capacités militaires de l'Iran. Ensuite, on est passé à 50%, et en fait, il semblerait que les missiles et les rampes de lancement et les silos, en fait, sont surabondants et que ces missiles avaient été mal évalués, non seulement dans leur nombre, mais aussi dans leur qualité technique. C'est-à-dire, on se retrouve avec des missiles qui sont plus véloces qu'on ne s'y attendait, qui sont capables d'aller plus loin qu'on ne croyait, qui ont une puissance de destruction supérieure à celle qu'on avait estimée.
Mais ce qui est probable, et ça c'est une source de réflexion et puis d'étonnement pour moi, c'est que autant le renseignement israélien et américain, mais peut-être surtout israélien, indique qu'une connaissance extrêmement précise des personnalités à éliminer, ce qui suppose de suivre leur mouvement de façon extrêmement pointue. Mais en revanche, l'appréciation du potentiel militaire que vous évoquez notamment en matière balistique, mais non seulement le potentiel, mais cette agilité, cette capacité à les manœuvrer, m'interroge. Et il semble que dans ce domaine, en tout cas, il y ait certainement une faille dans le renseignement, mais ça revient à ce que je disais en introduction, il y a certainement une méprise sur les capacités technologiques d'une nation, d'un peuple qui depuis très longtemps a une haute réputation scientifique et technologique. L'Iran de 2026, ça n'est pas l'Irak de 2003. Alors en plus, il est possible que dans le contexte de bascule planétaire et de rapprochement entre l'Iran, la Chine et la Russie, l'Iran ait bénéficié d'appui technologique de ces deux grands pays. Et donc, ça confortait ses capacités. Mais pour moi, c'est vraiment un étonnement sur ces services de renseignement qui ont peut-être mal apprécié ce potentiel iranien balistique et qui, nous aussi, doit nous interroger sur l'avènement du missile balistique à charge conventionnelle dans le nouveau contexte guerrier de ce quart de 21e siècle.
Alors, c'est le moment de vous poser une question technique, justement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement qu'un missile balistique à charge conventionnelle ?
C'est-à-dire que c'est un missile qui est capable de faire plusieurs milliers de kilomètres, chargé d'une, non pas d'une, d'une d'un explosif nucléaire, mais d'un explosif conventionnel extrêmement puissant, et un missile qui est guidé de façon extrêmement précise, parce que le missile, c'est un système d'armes. Vous avez le lanceur, vous avez la fusée proprement dit, la charge à l'intérieur, et puis la capacité de guidage. Donc tout ça, c'est quand même des systèmes d'armes, et je le répète, extrêmement précis, sophistiqués, qui supposent en amont des compétences scientifiques, techniques et militaires. Donc les États-Unis et Israël ne sont pas tombés sur un pays sous-développé en matière militaire. C'est ça que je veux dire.
Alors, on ne peut pas s'empêcher de faire aussi un parallèle avec l'Ukraine, donc il y avait en face d'elle la Russie, et donc évidemment une disproportion des territoires, du nombre de soldats, des moyens consacrés aux dépenses militaires, et qui, au fur et à mesure de l'évolution du conflit, a développé une nouvelle manière de faire la guerre, notamment avec les drones, au point que ces drones, qui sont là aussi des armes d'un nouveau type, faciles à produire. Un industriel allemand ironisait sur le fait que c'était les femmes ukrainiennes dans leur cuisine qui étaient en train de fabriquer les drones, et qui, malgré tout, sont devenus redoutablement efficaces, au point d'ailleurs que les Russes ont eux aussi fini par aligner des drones. On se retrouve avec des guerres qui déjoue, si j'ose dire, la manière stratégique dont les états-majors pensent la guerre de demain.
Mais on est certainement dans une nouvelle ère de la guerre. L'Ukraine l'a démontré avec l'utilisation de drones de toutes catégories et auxquels on confie des missions très différentes. Et pour moi, ces semaines iraniennes démontrent l'avènement du balistique dans la stratégie. Donc finalement, en 4 ans, depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes en février 22 et puis cette guerre de 2026, on a deux éléments majeurs qui peut-être pas transforment la nature de la guerre, mais quand même la modifient profondément et permettent, vous avez employé le terme asymétrique, à des pays moins puissants économiquement mais avancés au plan scientifique et technique, et peut-être appuyé par d'autres puissances majeures, de faire face à la puissance américaine qui est peut-être en train de s'effacer. C'est quand même une grande question. Derrière les armements en tant que tels, c'est quand même une grande question géopolitique qui se pose. Ce sont peut-être la fin de la Pax Americana étendue à l'échelle du monde et que les Américains avaient cru définitive à partir de 90-91. Donc les armements, c'est une chose, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de s'interroger sur l'arrière-plan.
Alors justement, cet arrière-plan, on avait eu l'impression avec l'élection de Donald Trump qu'il s'agissait d'un repli sur les États-Unis. Et d'ailleurs, la nouvelle doctrine stratégique américaine publiée à la fin 2025 parlait justement de la nécessité d'être recentré sur l'hémisphère américain, donc avec évidemment la capacité à absorber le Canada et le Groenland au passage. Mais on sentait une espèce de reflux. Et d'ailleurs, les analystes considèrent que oui, les États-Unis sont une puissance en récession et ils commençaient à comprendre que voilà, ils ne pouvaient plus être ce gendarme international prétendant changer les régimes et apporter la démocratie partout ailleurs, comme en Irak, avec le succès qu'on connaît. Mais au contraire, voilà, ils avaient compris qu'ils devaient se recentrer sur eux-mêmes. Or, avec cette guerre irano-israélo-américaine, on se retrouve au contraire avec à nouveau les États-Unis qui expliquent que c'est eux qui décident de l'ordre mondial. Et ils le font avec des instruments de puissance qui sont par exemple les flottes qu'ils ont déplacées avec ces énormes porte-avions. Et d'ailleurs, ça fait partie des questions qu'on se pose. On a des outils de puissance qui sont des outils diplomatiques et pas uniquement des outils militaires. Le fait d'engager ces outils, c'est déjà des signaux qu'on envoie aux belligérants, mais aussi au reste du monde. Et justement, l'un des porte-avions a été obligé de repartir parce que ses toilettes étaient bouchées et que donc l'équipage en éprouvait quelques désagréments. Et l'autre porte-avions qui a été envoyé très loin en fait du théâtre des opérations terrestres, lui-même est en train d'expliquer qu'il est en fait en bout de course, que d'une part la durée de mobilisation a été trop longue et surtout que ses munitions sont épuisées. Et est-ce qu'on n'est pas là aussi en train d'assister à un changement de paradigme avec des porte-avions gigantesques qui étaient censés être la preuve de la puissance et qui en fait se révèlent être des outils en fait délicats et fragiles, voire inutiles?
Alors votre propos comporte en fait plusieurs questions. La première, c'est de savoir comment elle porte sur cette doctrine Monroe dont Trump semblait l'héritier et puis finalement la trahissant un an après son élection, et qui pose la question de savoir qui a entraîné qui dans ces opérations en Iran. Hier, la presse et puis le New York Times évoquaient une réunion du 11 février à la Maison-Blanche avec Netanyahou, ayant rencontré le président Trump et une partie de ses proches. Et on peut se demander là si finalement ce ne sont pas les Israéliens qui ont poussé les Américains à faire une encoche par rapport à ce retour de la doctrine Monroe. Ça, c'est le premier point. C'est les causes de cette entrée en guerre. La deuxième chose, à propos des moyens militaires, je voulais dire que certainement pour les états-majors américains, ces opérations interviennent à un mauvais moment parce que depuis quelques années, les militaires américains sont en réflexion et en réorganisation de l'ensemble de leurs forces sur la base d'un concept qui vise à interdire à toute puissance majeure dans le monde d'interdire aux États-Unis l'accès à des zones stratégiques. Alors, c'est tout à fait intéressant parce qu'on s'aperçoit que le détroit d'Ormuz aujourd'hui, en fait, est quasi interdit, ou en tout cas, les Américains s'interdisent d'y accéder. Et puis, la troisième chose, vous évoquiez cette espèce de fatigue ou de cette lassitude matérielle, et certainement pour le personnel aussi, des armées américaines. Ça fait plus de 20 ans qu'elles sont engagées dans des opérations majeures. Et quand vous lisez la presse spécialisée militaire américaine, vous découvrez que l'US Air Force a des gros problèmes, pas seulement budgétaires à cause du coût du F-35, par exemple, mais des problèmes de personnel, de recrutement et surtout de fidélisation de leurs pilotes. Les Marines sont en pleine réflexion quant à leur emploi et chez les anciens généraux de ce corps, il y a des conflits de doctrine très, 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 très forts. Et puis, la Navy, elle aussi, a des bâtiments qui sont âgés. Donc, en fait, ces opérations en Iran, elles n'arrivent pas au meilleur moment pour les armées américaines et il est très vraisemblable, alors peut-être que la démission forcée du chef d'état-major de l'armée de terre américaine en est l'illustration, il est très vraisemblable, mais comme au moment de l'invasion de l'Irak il y a plus de 20 ans, qu'une partie du haut état-major américain n'ait point été très favorable à ces opérations en Iran. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie fatigue, malgré les exploits qui ont été réalisés et mis en avant, une vraie fatigue des armées américaines et notamment de la marine, mais la question de l'US Air Force est aussi très, très prégnante.
Alors, vous parlez de. Alors, je suis en train de recevoir Philippe Nicolardo, ancien contrôleur général des armées, pour parler d'un point de vue militaire de l'évolution des conflits, évidemment l'Iran, mais aussi l'Ukraine. Et nous allons peut-être nous poser la question, justement, des exploits. Donc, Peter Hegseth, donc le ministre des armées américaines, Donald Trump, le président des États-Unis, ne cesse de vanter la manière incroyable dont des opérations stupéfiantes ont été menées à une échelle jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que véritablement le conflit iranien est le théâtre d'exploits qu'on n'avait jamais vu depuis Achille ?
Ah, si vous évoquez les conditions de la récupération du pilote, enfin de l'officier navigateur du F-15 il y a quelques jours. Oui, on peut dire que c'est une opération assez, assez remarquable qui peut cacher un échec par ailleurs. Certains ont évoqué la présence en réalité d'un commando des forces spéciales destiné à récupérer les 400 et quelques kilos d'uranium enrichi, mais d'autres se sont étonnés, je crois avec raison, de la mise de la publicité excessive donnée à cette affaire-là, parce que si les États-Unis s'engageaient dans un conflit avec des troupes au sol et beaucoup de pertes, alors on peut se demander quelle serait la possibilité et en tout cas et la pertinence aussi de mettre en musique de façon aussi publicitaire la récupération d'un pilote. Et je crois que ça n'a pas, c'est une opération très, oui, marketing, mais je ne pense pas que les Iraniens et puis leurs alliés aient considéré que c'était là une grande victoire américaine. On peut pas dire, même si on salue l'opération au plan technique, on peut pas dire que récupérer un pilote en zone ennemie soit une victoire, et ça a été présenté comme ça.
Voilà, et d'une manière générale, voilà, on nous a expliqué, enfin, Donald Trump explique en fait que chaque bombe qui tombe est la meilleure des bombes jamais inventées et que chaque école détruite est l'école la plus puissante qui ait jamais été annihilée par une puissance ennemie.
Oui, ben vous évoquez, Richard, Achille. Alors, on pourrait évoquer dans ce cas-là la question de l'hubris qui a marqué la réflexion des philosophes de l'Antiquité. On a le sentiment que Donald Trump est pris d'une espèce d'hubris, mais dont on sait qu'elle entraîne la colère des dieux et qu'en tout état de cause, elle n'est jamais suivie de conséquences très, 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 très fécondes. Donc je pense qu'il y a à la fois de l'hubris et puis la tradition américaine de mettre en avant des exploits de nature très, très technologique. Mais ça nous amène peut-être à évoquer un autre point, c'est la question de la connaissance de l'ennemi et l'image que l'on s'en fait. Et dans ce conflit, quand on entend l'idée de réduire une civilisation très ancienne à l'âge de pierre, on s'interroge sur la façon dont les Américains, en tout cas l'administration Trump, ou une partie, il n'est pas sûr que J.D. Vance soit sur le même pied que Donald Trump, mais se représente l'Iran. Et moi, je me disais qu'au-delà de la férocité du régime en place, comment les Iraniens peuvent apprécier d'être considérés comme ça par celui qu'ils pensaient être leur libérateur. C'est une question aussi, alors qu'à mon avis, je ne sais pas combien de temps il reste pour notre entretien, mais qui est posé aussi à nos militaires, c'est la question de la place des militaires. Alors, je pense à la France, hein, mais comme conseiller du prince dans un monde aussi complexe et qui nécessite une connaissance pointue de l'ennemi, et donc en revenir à ce que disait le général de Gaulle à propos de la relation entre culture générale et commandement, la culture générale et l'école du commandement, mais je crois que la complexité aujourd'hui des affaires du monde et ce que nous vivons le démontre, suppose de la part des militaires une grande conscience professionnelle et personnelle et une capacité à se représenter l'ennemi de façon la plus juste possible pour être de bons conseillers du prince. Et il est possible qu'autour de Donald Trump, la représentation de l'ennemi soit n'est pas satisfaisante, ou alors si elle est juste et qu'elle ne plaise pas au maître, eh bien, elle pose des problèmes de relations entre le politique et le militaire.
Alors, il y a eu cet article du New York Times, paru il y a quelques jours, qui raconte très longuement la façon dont Epic Fury, Führer Epic, a été lancé. Et on sent que Donald Trump est environné de gens qui sont soit raisonnablement incompétents, comme Peter Hegseth, et qui sont là pour servir le prince et lui expliquer qu'il a raison, soit sont raisonnablement compétents, comme une partie des militaires, et les premiers n'essayent pas de conseiller le prince, et ils essayent de voir où il veut aller et ils le flattent et lui disent que bien sûr la direction qu'il prend est la bonne, y compris sur la base par exemple des déclarations de Benjamin Netanyahou qui aurait présenté un plan en quatre parties pour écraser l'Iran avec des objectifs très précis de changement de régime, de démantèlement de l'industrie nucléaire, et les conseillers raisonnables et compétents qui disaient que comme beaucoup des plans israéliens, ce n'est pas vraiment ficelé, que le début est toujours bon mais que la fin est toujours aléatoire, les militaires américains qui expliquaient qu'ils étaient réticents à l'idée de se lancer, et néanmoins Trump qui décide de lancer avec ce nom homérien et homérique, de Führer Epic, qui décide néanmoins de lancer l'attaque, exactement d'ailleurs comme Poutine lui aussi décide de se lancer contre l'Ukraine en expliquant qu'il s'agit de la dénazifier et qui 4 ans plus tard se retrouve en ayant conquis à peine 20% du territoire.
Ce qui a fuité hier à partir d'un article du New York Times et qui a même été mis en musique via l'intelligence artificielle pour nous représenter cette réunion du 11 février, indiquait quand même que des gens comme Marco Rubio n'étaient pas très en faveur de cette intervention, que J.D. Vance n'était pas présent à la réunion, et qu'il est possible que si c'est lui qui mène la négociation à Islamabad, c'est bien parce qu'il n'est pas tout à fait sur la même portée que son patron. Mais certains se demandaient si cet article et puis les images publiées de cette réunion à la télévision n'est peut-être pas aussi de nature à essayer de dédouaner l'administration Trump en disant « Regardez, on n'était pas tous d'accord au fond » et que ça permettrait, dans ce cas-là, d'appuyer des négociateurs plus modérés, en tout cas dans leurs objectifs ou dans leur expression, que le président Trump lui-même. Donc, c'est peut-être un autre enseignement de cette guerre. C'est quand même la place confortée de l'image, mais avec les vérités et les mensonges qui sont sous-jacents. Donc, c'est aussi un autre élément de réflexion, je pense, pour nos militaires. C'est le maniement de l'image en lien étroit avec le politique.
Une dernière question avant que Alexis Poulain nous rejoigne. D'un point de vue militaire, quelle est la chose qui vous a le plus surpris dans ce conflit iranien?
Non, je dirais que ce qui m'a... Pas des choses qui m'ont surpris, mais qui ont conforté... Ma vision de certaines permanences dans l'histoire, c'est que je songeais aux Dardanelles au printemps 1915, qui avait été un échec pour la coalition, pour les alliés franco-britanniques. Et par rapport au détroit d'Ormuz, je me disais, mais finalement, on est un peu dans la même situation, sauf que on se refuse à prendre ce détroit par crainte des pertes que cela entraînerait. Donc, j'ai pas d'étonnement. C'est pour moi la confirmation que l'histoire, c'est à la fois l'irruption de surprises techniques, stratégiques, et puis en même temps, des constantes. On entre dans une guerre, mais on ne sait pas du tout ce qui en suivra. Donc, c'est la question du brouillard de la guerre. C'est de nouveau et toujours la question de la relation entre le politique et le militaire. Et puis, ces interrogations quand même sur cette bascule du monde et la place de la France et de l'Europe dans ce nouveau monde. Ce n'est pas des surprises, c'est surtout des interrogations, et je regrette qu'elles ne soient pas suffisamment portées au niveau, je l'ai déjà dit, de la représentation nationale, parce que je termine là-dessus, la question de l'avènement du balistique de longue portée sans charge nucléaire, j'en suis convaincu, repose la question de notre doctrine nucléaire. Que faire si un jour, de l'autre côté de la Méditerranée, on a des missiles balistiques à forte charge conventionnelle? Comment fait-on pour dissuader celui d'en face de l'employer? Et quid de notre doctrine nucléaire? C'est ça aussi une interrogation que je porte.
Merci beaucoup Philippe Nicolardo, restez avec nous. Tout de suite Alexis Poulain va nous rejoindre, mais c'est le moment de dire d'ailleurs que nous aussi, à défaut de missiles balistiques, on a besoin d'argent, et notamment pour faire ces émissions.
Effectivement Richard, vous pouvez nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et également adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Nous comptons sur vous, c'est très important et merci d'avance.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors, de quoi nous parlez-vous aujourd'hui?
Et je voulais parler du 1er mai, vous savez, qui subit soudain l'attaque de Gabriel Attal et de toutes ses troupes pour expliquer que ce serait bien quand même que le 1er mai, les boulangers puissent faire travailler leurs salariés, que les fleuristes puissent ouvrir, bref, que tout le monde puisse travailler lors du jour de la fête des travailleurs. On a l'impression que ça devient l'alpha et l'oméga de toute une politique, hein, mettre la France au travail, coûte que coûte, même un jour férié qui célèbre les travailleurs, comme s'il fallait faire tomber un symbole de plus, ça ne changera pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'en France, on peut se poser la question de ceux qui veulent travailler le 1er mai et qui ne peuvent pas, hein, puisque l'inspection du travail, elle, travaille le 1er mai et va faire le tour des boulangeries pour voir si jamais quelques boulangers réfractaires auraient osé ouvrir ce jour-là alors que certains Français cherchent leur baguette. C'est vrai que c'est un débat où on va avoir le pour, le contre et un débat hautement symbolique. Faut-il laisser travailler ceux qui le veulent le 1er mai ou faut-il leur interdire, comme on interdit tout finalement en France, parce que chacun n'est pas libre de ce qu'il veut faire. Alors c'est encore une fois étonnant, je trouve, de voir le sens des priorités de certains de nos politiques et de s'acharner ou de se débattre sur un symbole comme celui du 1er mai, alors qu'on voit qu'il y a d'autres problèmes bien plus urgents, le pouvoir d'achat, la désindustrialisation qui ne va pas s'arrêter parce que certains boulangers vont avoir le droit d'ouvrir le 1er mai, et puis la question de l'emploi et du plein emploi qui n'existe plus depuis longtemps avec ce chômage de masse dont on a bien du mal à trouver la solution, quelle que soit d'ailleurs la couleur du gouvernement. Et donc ça m'étonne de voir que Gabriel Attal, qui se prépare pour 2027, va sortir un livre, prépare un grand meeting le 30 mai et va sans doute annoncer sa candidature, une de plus pour 2027, soit aussi arc-bouté sur un symbole comme le 1er mai. Ça en dit long finalement sur la déconnexion d'une certaine façon du politique qui ne voit pas que ce n'est pas en s'attaquant au symbole qu'on va changer la donne. Et c'est ça le problème aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans la politique symbolique, dans la politique politicienne, dans les petits jeux d'alliances et de mésalliances, plutôt que dans la stratégie. Et ça fait longtemps, malheureusement, qu'on a perdu cette vision stratégique en France.
Alors, revenons quand même sur le 1er mai. D'un côté, effectivement, c'est un symbole des travailleurs. De l'autre côté, si le travailleur a envie de travailler, on a envie de dire, ben, très bien, si quelqu'un est suffisamment appauvri par la politique de 10 ans de Macronie, oui. Y compris bien aidé par Gabriel Attal, en matière de pauvreté, sinon en matière de politique, pourquoi ne pourrait-il pas gagner de l'argent? Et pourquoi les inspecteurs du travail sont-ils là en train de prétendre sauvegarder la République en empêchant 4 boulangers de payer un salaire décent à 4 mitrons?
Non, mais c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on parle quand même des salariés, des boulangers et fleuristes le 1er mai. Et voilà ce à quoi s'occupe l'Assemblée nationale. On aurait pu avoir réglé le problème il y a des années, en réalité, et se dire, bon, bah, pourquoi on en est encore avec une politique coercitive ? Ou tout simplement dire aux inspecteurs du travail ce jour-là, restez chez vous, profitez-en, et laissez faire sans regarder.
Exactement, comme des policiers qui évitent les quartiers sensibles, voilà, ça, on est capable de le faire.
Ils sont tout à fait capables de le faire, ou des fonctionnaires qui vont laisser traîner des dossiers sur dans le ministère de la Justice ou autre. Donc ils sont tout à fait capables de faire traîner, d'oublier, d'être dans le déni, de regarder ailleurs. Pourquoi ce jour-là les inspecteurs du travail se mobilisent ? Pourquoi ils vont aller voir particulièrement les boulangeries et les fleuristes ? On se dit qu'il y a quand même un jeu pervers dans cette affaire, alors qu'il suffirait d'avoir une approche très simple et de dire « travaille qui veut ». Et ça n'empêchera pas ceux qui auront droit à ce 1er mai d'y avoir droit, et ceux qui ont besoin de travailler ou qui préfèrent travailler ce jour-là parce qu'ils en ont besoin, comme vous dites, de le faire. Mais dire qu'on va encore avoir un débat à l'Assemblée nationale pour sans doute pondre une loi qui ne sera pas appliquée ou mal appliquée, enfin, c'est la maladie française. C'est cette idée de dire, mais à quel moment ces gens-là, qui sont censés représenter la nation, les citoyens français, sont capables de passer autant de temps sur des débats picrocolins, sur des thématiques symboliques, encore une fois, je le rappelle, hein, parce que vraiment, ce qu'on voit derrière ça, c'est de dire, il faut travailler plus, hein, sans le dire à Édouard Philippe, mais à peu près avoir le même message. Mais par contre, il n'y aura pas de débat sur les 35 heures, il n'y aura pas de débat sur la levée des taxes qui empêchent les entreprises d'embaucher, il n'y aura pas de débat sur ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation de blocage et de paupérisation accélérée d'une grande partie de la population française.
Voilà. Effectivement, on ne remet pas en cause cette loi sur les 35 heures. Je rappelle que Lionel Jospin était à la manœuvre, là comme ailleurs. Mmh. Donc, puisqu'on a éprouvé le besoin de célébrer sa mémoire, alors qu'il a quand même commis un certain nombre d'erreurs absolument majeures, et ce n'était même pas des erreurs, c'était une politique avouée. On ne remet pas en cause le financement de l'État à travers des taxes aberrantes qui pèsent sur le travail français, d'ailleurs aussi bien sur l'entreprise que sur le travailleur, parce que voilà, celui qui est salarié voit la moitié de son salaire partir dans les caisses de l'État. Ça, il est rigoureusement impossible que l'État renonce en fait à la spoliation fiscale organisée en France. Et pourtant, c'est ça le sujet majeur.
Oui, c'est ça le sujet majeur. C'est depuis une cinquantaine d'années, en fait, une accumulation, une multiplication de taxes avec toujours plus de prélèvements, que ce soit des prélèvements indirects comme la TVA ou des prélèvements directs, que ce soit les impôts sur le travail, mais aussi sur la productivité, avec derrière une dette abyssale. C'est-à-dire qu'on taxe pour boucher un trou qu'on creuse. Et là, il n'y a jamais ce débat fondamental sur à la fois la voilure de l'État, sur l'audit national financier qu'il faudrait faire de manière indépendante et sans la Cour des comptes pour savoir où va l'argent des Français. Et puis surtout de dire, mais rendez du pouvoir d'achat aux Français. On a vu ce débat avec l'essence qui explosait avec la crise en Iran. Eh bien, plutôt que d'avoir le premier réflexe qui aurait été le plus simple et le bon, de dire, bah, écoutez, pendant un mois, on va baisser la TVA, comme ça, vous ne verrez pas la différence et ce sera moins difficile, l'État ne voulait pas s'asseoir sur les milliards de recettes. Il préférait ressortir la politique du petit chèque et dire, vous aurez droit à un ticket de rationnement de carburant plutôt que de dire vous pourrez acheter votre carburant. Et c'est vraiment là où on voit toute la perversité en fait de la machine étatiste française qui est là pour tenir par le petit chèque, pour paupériser d'un côté et ensuite donner un peu d'air avec un petit chèque financé par ceux qui peuvent encore payer suffisamment d'impôts pour tenir ce système qui, un jour ou l'autre, malheureusement, risque de s'effondrer.
Un jour ou l'autre, il s'effondrera. La première loi que vous faites passer quand vous devenez président de la République, enfin non, pardon, excusez-moi, Premier ministre, puisque là, vous serez en charge de l'exécutif.
Ce serait une loi de pouvoir d'achat et ce serait vraiment, je pense, la première chose, ce serait d'en finir avec les surtaxes et de dire on doit aujourd'hui rendre 30% de salaire aux Français plutôt que de le prélever et trouver une solution. Et en faisant ça, c'est simple, hein, vous allez relancer la machine de la consommation, la machine aussi de l'emploi et beaucoup de choses qui sont assez faciles. Mais encore une fois, vous faites ça, vous avez, je pense, devant vous une armée de fonctionnaires, de technocrates, de gens qui sont là avant et après les élections, qui feront tout pour empêcher ce système-là d'arriver en disant que non, ce serait une révolution. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisque Emmanuel Macron a été élu avec ce livre qui s'intitulait Révolution. J'ai pas vu de révolution. Même sa réforme symbolique, qui était la réforme des retraites, il l'a remise dans un tiroir et on n'en parle plus. Ce président qui devait tout chambouler, faire rentrer la société civile, faire rentrer la France dans le 21e siècle, n'a fait que mettre en place petit à petit les jalons d'un régime autoritaire de censure de la parole publique où la paupérisation s'est encore accélérée.
Eh bien, merci beaucoup Alexis Poulain. Restez avec nous et nous reparlons de la guerre avec Philippe Nicolardot.
Ligne droite.
Nous avons de la visite.
Le face-à-face.
Et donc, dans ce face-à-face, un combat titanesque, une fois de plus, d'un côté Alexis Poulain, cofondateur du site Le Monde Moderne, et de l'autre, Philippe Nicolardot, ancien contrôleur général des armées, dont j'espère qu'il va réapparaître. Nous sommes en train de discuter avec lui de la conduite de la guerre, évidemment de la manière très surprenante dont cette guerre, d'un point de vue militaire, fonctionne. Vous, Alexis Poulain, avez-vous considéré que la manière dont les militaires s'étaient engagés était pertinente ? En tant que civil, avez-vous l'impression que les militaires avaient correctement estimé la façon dont les opérations allaient se dérouler ?
En Iran, vous voulez dire par rapport au
Pentagone ? En Iran, oui.
Oui, non, je pense que on a affaire là à une opération totalement bâclée et extrêmement dommageable pour à la fois l'image de Donald Trump, son pouvoir en interne, qui a été entouré de très très mauvais conseils. Je pense que on lui a vendu une opération équivalente au Venezuela en disant regardez, c'est très facile, on a la plus belle armée du monde, la plus belle technologie, on est capable de faire des opérations très rapides, très fortes, de taper un grand coup et vous allez voir ce que vous allez voir, avec en plus derrière visiblement certains conseiller issu du gouvernement israélien qui expliquait que ce serait très facile de renverser le régime des mollahs en Iran et que la population iranienne irait directement dans la rue pour prendre le relais et donc il y aurait à la fois un bombardement stratégique militaire et de l'autre côté une révolution de couleur très rapide parce que les Iraniens n'attendent que ça. Tout ça est faux. On le voit, il y a eu évidemment quelques morts dans la direction du régime iranien, mais on ne voit pas de décapitation du régime. Il y a eu de lourdes pertes stratégiques sur les capacités de lancement de missiles, mais l'Iran continue de se défendre et impose des pertes sans doute assez lourdes à l'armée américaine qui essaye de les cacher d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, la situation est tellement dramatique que Donald Trump en est à remettre l'affaire Epstein sur le devant de la scène avec Melania Trump qui fait une adresse à la nation à propos de cette affaire pour faire oublier le fiasco iranien qui n'en est pas un puisque c'est une grande victoire selon Donald Trump. Donc on est vraiment là dans une opération ratée, bâclée, sans doute parce qu'il y a eu d'extrêmes mauvais conseils et parce qu'il y a cette hubris américaine de croire qu'ils sont encore les plus forts partout et tout le temps, sachant que Donald Trump avait en tête de taper un grand coup en Iran avant sa visite en Chine pour expliquer ensuite à l'empereur chinois qu'il était le plus fort du monde. Donc c'est un ratage total, il faut le dire. On ne peut pas dire que là, les États-Unis ont gagné quoi que ce soit puisqu'ils retournent à la table des négociations qui n'aboutiront pas, hein, soyons clairs, quand on voit les demandes des Iraniens. Et donc le risque, c'est de voir une reprise des hostilités, peut-être avec cette fois-ci une coalition de volontaires que Donald Trump aurait réussi à emmener dans le détroit d'Ormuz. Mais on est loin du compte et je pense que là, en termes politiques, en termes de crédibilité, y compris pour la diplomatie américaine, c'est une catastrophe.
On se retrouve avec un détroit d'Ormuz pour le moment bloqué, enfin à moitié bloqué, c'est-à-dire que de temps en temps un pétrolier passe ou un porte-conteneur débarque. Ce détroit d'Ormuz, c'est un point de blocage, on le savait, il avait été identifié. Philippe Nicolardot, lorsque les militaires s'engagent sur un théâtre d'opération, ils évaluent évidemment toutes les fragilités, et ils évaluent tous les points de blocage possibles. Le détroit d'Ormuz, évidemment, faisait partie de ces points qui étaient, repérés comme étant un possible goulot d'étranglement.
La géographie fait qu'effectivement, normalement, du point de vue de la planification, la question du détroit d'Ormuz aurait dû être prise en compte. C'était un élément que je pensais évoquer dans la première partie. Ça pouvait être effectivement une source d'étonnement de notre part à mettre en lien avec le développement de l'intelligence artificielle dans la préparation des opérations. Et moi, je me suis demandé dans quelle mesure l'intelligence artificielle avait été utilisée pour planifier les opérations et me demandant donc comment on avait pu oublier la dimension éminemment stratégique et donc économique du détroit d'Ormuz. Ce qui me fait dire que vraisemblablement, Israéliens et Américains imaginaient une guerre très courte qui ferait, entre guillemets, l'économie de la question du détroit d'Ormuz, parce que le bon sens, normalement, aurait dû conduire à prendre en compte la géographie comme elle est. Donc, je pense que là, c'est certainement, je parlais tout à l'heure de l'hubris, mais c'est certainement l'idée, alors on pourra y revenir, qu'une guerre aérienne, et malgré toutes les leçons de l'histoire, pouvait suffire pour, un, emporter le régime et deux, le faire submerger par une vague populaire qui aurait suivi les 10 ou 15 jours de guerre. Ça, oui, tout à l'heure, vous me demandiez si je m'étonnais, je vous disais non. Réflexion faite, là, il y a quand même un étonnement sur la non prise en compte du détroit d'Ormuz par les planificateurs américains. Ça, c'est une vraie question. Et à l'époque de l'intelligence artificielle. Et ça, pour moi, c'est assez surprenant, effectivement.
Et on sent aussi que dans cette guerre, on a tenté une nouvelle approche, c'est-à-dire, qui est assez inédite, dire, pour gagner une guerre, on tue l'État, on décapite l'État, et ensuite l'État est comme un poulet sans tête, et donc on peut ramasser la carcasse. Siavosh Gazi nous disait mardi dernier que les Iraniens avaient en fait, il y a quelques années, déterminé jusqu'à 4 niveaux de succession à la tête de l'État. C'est-à-dire, si le guide suprême est tué, c'est celui-ci qu'il remplace. Si celui-ci est tué, ce sera celui-là. Si celui-là est tué, ce sera le 4e larron. Et comme ça, dans toute l'administration, qu'il s'agisse de la superstructure religieuse, de la superstructure civile, de la superstructure militaire. Donc, ils avaient déjà anticipé cette capacité nouvelle dans la doctrine politique qui consiste à dire « je n'ai qu'à tuer le chef de l'État et après on se retrouve avec personne pour négocier et donc le pays est facilement à prendre ». Vous soulignez aussi dans votre réponse, on a l'idée maintenant d'une guerre qu'on mène à distance, sans engager les troupes au sol, et donc par les miracles de ces frappes prétendument chirurgicales, qui sont en fait évidemment des assassinats ciblés, qui considèrent que le fait qu'il y ait 100 civils à côté de celles qu'on a visées ne sont que des dommages collatéraux. On l'a vu au Liban. Il y a cette guerre qu'on mène à distance, et en fait, une guerre qu'on mène à distance n'est pas une guerre qu'on peut gagner.
C'est cette erreur d'appréciation que j'évoquais tout à l'heure, certainement du fait des services de renseignement qui se sont focalisés, comme vous le dites, sur l'idée qu'en assassinant successivement les têtes du régime, des services de renseignement, des gardiens de la Révolution, on allait mettre à bas un État. Donc, c'est quand même une méconnaissance d'un système et d'une mentalité. Et puis, effectivement, d'autre part, il y a l'idée… Alors, est-ce que ce n'est pas lié, pour une part, au refus de la mort et au vieillissement de nos sociétés, qu'on pouvait conduire des guerres à distance, tuer des gens à des milliers de kilomètres, tout en conservant un régime de vie relativement confortable? C'est peut-être la nouvelle idée de la guerre que l'on se fait du point de vue occidental, mais qui… semble-t-il, ne fonctionne pas. Donc là, il y a encore des sources de réflexion pour nous. Est-ce que conduire des guerres à distance mène au succès ? Rappelons-nous qu'aucune campagne aérienne n'a mené à un succès politique quelconque. Et les Américains le savent bien. On sait qu'au printemps, enfin en janvier, février 1945, l'Allemagne nazie continuait à produire des chars et des avions, malgré les bombardements des Anglais et des Américains, et que le régime féroce, malgré tout, a tenu quasi jusqu'au bout. Et ça fait 80 ans. Et donc ça, c'est quand même une constante, c'est cette espèce d'entêtement à penser que que des opérations aériennes peuvent emporter le succès. Et ça, tout à l'heure, j'évoquais les constantes de l'histoire. C'est une constante. La guerre aérienne ne permet pas d'emporter la victoire parce qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas au sol, sur le terrain, eh bien, n'y a pas de succès stratégique, il n'y a pas de succès politique.
Alexis...
Malgré les développements technologiques d'aujourd'hui, il y a des constantes.
Mmh. Ouais. Effectivement, on n'y arrive pas. Alexis Poulain, une question qui est presque un pas de côté. Le général Mandon, lui, continue à expliquer justement que la Russie va nous attaquer. Il ne parle pas d'attaque, aérienne et on a l'impression qu'il faut que la nation en armes, que le paysan laboureur de la révolution soit réactivé et qu'on se retrouve avec toute une nation qui se réarme, ne serait-ce que moralement, avant d'avoir un effort de guerre aussi industriel. Vous pensez qu'on a véritablement une menace territoriale précise menée par la Russie à un horizon très précis, d'ailleurs de 3-4 ans, mis en place par le général Mandon.
Delphine Ernotte le soulignait même dans son audition. Les militaires parlent d'un conflit à 2029 et c'est pour ça qu'un service public de la propagande est très important. Non, on sent bien qu'il y a une vision stratégique totalement pervertie par l'OTAN, notamment en Europe, de dire que les intérêts français sont dorénavant, et ça c'est aussi Emmanuel Macron qui a amené cette petite musique, des intérêts européens. Et que donc, à partir du moment où un survol dans la Baltique de l'espace aérien lituanien serait une attaque de nos intérêts immédiates. Et donc, on sent cette volonté de faire en sorte de créer l'ennemi. On est vraiment dans 1984, en disant que voilà, après l'Ukraine, la Russie prendra la Pologne, les Pays-Baltes, et sera à Paris en quelques semaines si nous ne faisons rien. L'Allemagne aussi est dans la même paranoïa, avec l'idée de faire une armée, la plus grande armée d'Europe. Donc on voit bien que tout a changé. La question, c'est les moyens. Encore une fois, aujourd'hui, ces gens parlent sans stratégie, avec l'idée de faire des réserves de suffisamment d'armes et de munitions, puisque nous n'avons pas de quoi répondre à la demande, et certainement pas à une demande stratégique de réponse d'invasion. Et c'est vrai que la vision stratégique, on a l'impression que c'est celle d'une invasion terrestre, de reprendre le modèle ukrainien et de dire, ben voilà, ça va être le modèle pour la guerre, la troisième guerre future. On reviendrait à un modèle Première Guerre mondiale, guerre d'attrition, avec des drones en plus. On a l'impression que tout ça surnage avec de l'improvisation, beaucoup d'idéologie, beaucoup trop d'idéologie, dans un secteur où quand même c'est la stratégie et le fait d'être assez pragmatique par rapport aux forces en présence et au terrain. Et surtout, l'absence de planification, encore une fois, c'est-à-dire que la France est très en retard sur les programmes de drones. Alors on a, et c'est une bonne nouvelle quand même, réaffirmé l'arme nucléaire et notre stratégie sous-marine notamment, mais pour le reste, on a l'impression quand même d'une grande improvisation totalement idéologique pour faire plaisir à quelques politiques qui veulent faire la grande Europe et une Europe puissance qui soit capable d'aller faire la guerre à la Russie à horizon 2030. Voilà. Pourquoi ? Allez savoir, parce qu'il faut montrer qu'on est aussi fort. C'est ce mantra répété par Emmanuel Macron dans chaque discours. Et pour être respecté, il faut être craint. Pour être craint, il faut être fort. Non, je crois que c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Il faut être crédible, surtout. Or, Emmanuel Macron et la crédibilité, ça fait deux.
Philippe Nicolardeau, dans la minute qui nous reste, vous soulignez que la France avait peut-être un défaut dans son arsenal, c'était justement ces missiles balistiques conventionnels, c'est-à-dire une arme non nucléaire mais néanmoins capable effectivement d'aller frapper loin et fort. L'État français est-il en train de corriger ce tir-là ?
Oui, il le corrige, parce que dans la loi de programmation militaire, il y a quelques millions d'euros qui sont consacré à des recherches sur un projet de missile balistique de théâtre, MBT, qui serait fabriqué par Ariane Group. Donc, on engage des études de faisabilité pour Dixit, le président Macron à Lille Longue, en fait, s'inscrire dans la gestion conventionnelle de l'escalade. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il y a un vrai problème sur notre doctrine nucléaire aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de tout cet arsenal conventionnel ? Si oui, est-ce que ça ne remet pas en cause la pertinence de notre dissuasion ? Et là, il y a un vrai débat qui doit être ouvert, parce que derrière cela, il y a une politique de défense. Et puis, pour le contribuable, il y a quelques milliards d'euros qui sont concernés. Mais tout ça, ça suppose, comme le disait Alexis, une vision politique et une vision stratégique.
Et voilà, une vision politique et une vision stratégique. Eh bien, comptons évidemment sur Édouard Philippe et Gabriel Attal. Merci beaucoup, messieurs, et à très bientôt sur Radio Courtoisie.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Richard de Sèze.
Et voilà, dans un instant, enfin plutôt pas dans un instant, dans 20 minutes, on aura Pascal Pointu. Et bien sûr, nous pourrons parler avec Anne Sicard de sa proposition de loi sur le voile islamique, mais pas que, justement. Et en attendant, un petit rappel de l'actualité avec Magda Dautefeuille.
Alors qu'il promettait pendant la campagne de faire des économies massives à la ville de Paris, Emmanuel Grégoire se retrouve déjà au cœur d'une polémique. Le nouveau maire souhaite maintenir une majoration de 25% des indemnités pour lui-même et plusieurs élus parisiens, pendant que des efforts budgétaires sont demandés aux Français. Et Vladimir Poutine annonce un cessez-le-feu temporaire en Ukraine à l'occasion de la Pâque orthodoxe. Les combats devraient être suspendus du 11 au 12 avril, selon un communiqué du Kremlin. Et nous célébrons en ce 10 avril Saint Fulbert et le bienheureux Néro.
Eh bien, voilà, bonne fête à tous les Néros. Merci beaucoup, Magda.
Ligne droite.
Le samedi 11 avril prochain, comme chaque année, l'Institut Iliade organise le plus grand rendez-vous métapolitique de droite. Le colloque de l'Iliade, c'est plus de 1500 participants réunis à la Maison de la Chimie, à Paris, pour une journée d'intelligence et d'engagement. Des personnalités, des artistes, des intellectuels, des jeunes au service de leur communauté se retrouveront pour penser la France et l'Europe de demain et réfléchir ensemble à la meilleure façon de défendre nos libertés, thème de cette année. Autour de la buvette, des dédicaces ou sur les très nombreux stands, retrouvez les chroniqueurs et invités vedettes de Radio Courtoisie. Laurent Berton, Jean-Hugues Gana, Pierre Larty, Jean-Yves Le Gallou ou Alice Cordier seront heureux de vous saluer. Ne manquez pas cet événement unique. Rendez-vous le 11 avril à Paris pour le colloque, suivi cette année d'un grand bal traditionnel. Les billets sont en vente sur institut-iliade.com.
Ligne droite, débattons-en.
Et nous allons débattre justement du nouveau terrain de jeu des islamistes, les conseils municipaux, avec Anne Sicard, députée Identité et Liberté de la première circonscription du Val d'Oise. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous avez déposé donc une proposition de loi qui vise à interdire en fait les signes religieux ostensibles et très précisément le voile islamique parce que, vous le soulignez, en à peine 20 ans, voilà, il y a maintenant des candidats, évidemment de gauche et d'extrême gauche, qui considèrent que le voile islamique fait partie de leur engagement personnel et que manifester sa foi à l'intérieur des enceintes municipales, pour lesquelles pour le moment il n'existe pas de loi, est légitime. Alors, même si, évidemment, on sent bien que chez eux, il s'agit de la promotion conquérante d'un islam qui n'entend pas juste se soumettre à la loi française, mais au contraire la transformer.
Exactement, exactement. On a vu ça avec les dernières élections municipales, où on a vu plusieurs élus LFI non seulement portés à la tête des mairies, mais également comme conseillers municipaux. On a vu des maires LFI élus à Mantes-la-Jolie, à Saint-Denis, pour l'un des plus connus. Et on a vu aussi à la Courneuve, où on a vu que le maire Ali Diouara a carrément nommer maire adjointe une femme voilée. Donc la même chose à Meaux et à Chalon-sur-Saône, où il y a là des conseillers municipaux qui étaient voilés, enfin en tout cas une. À Meaux, Jean-François Copé, vous avez vu, a dit que ça ne posait pas de problème et que même il a déclaré que c'était trop tard et qu'on aurait dû le faire il y a 25 ans.
C'est dommage, parce qu'il y a 25 ans, quand on lui demandait son avis, c'était pas le moment non plus.
Pas le moment non plus, donc c'est jamais le moment. Donc on verra quand si les islamistes nous imposent la charia, on fera quoi hein. Donc on fera rien non plus parce que ce sera trop tard. En revanche, il y a des maires qui sont plus courageux. À Chalon-sur-Saône, on a vu que Gilles Platré, lui, avait pris un arrêté pour empêcher le port du voile pendant les conseils municipaux. Arrêté qui a été attaqué par deux élus et les filles, dont une voilée. Pour le moment, ça n'a pas été remis en cause par le juge des référés de Dijon qui a considéré qu'il n'y avait pas de problème avec cet arrêté municipal. Mais effectivement, il y a un vide juridique dans lequel se sont engouffrés les islamistes. Ils veulent en effet que l'on accepte cette particularité de l'islam, d'un certain islam, pour les élus de la République, ce qui pose évidemment un problème. Et on voit, effectivement, vous en avez parlé, un changement avec 2010. En 2010, le NPA avait présenté une candidate voilée. Ça avait fait un scandale, même au sein de la gauche, de Aurélie Philippetti du PS à Marie-Georges Buffet PC, et même Mélenchon avait critiqué cette candidate voilée. Et 16 ans plus tard, le LFI présente des candidates voilées. Donc dans 16 ans, on en sera où? Donc il est temps effectivement de combler le vide juridique qui leur permet d'imposer ce qu'ils veulent, et surtout qui laisse les maires qui essaient, qui sont courageux et qui essaient de bloquer cet entrisme islamique, seuls face à la mer.
Parce qu'effectivement, les maires, et vous l'avez souligné, Gilles Platret par exemple, peuvent prendre des arrêtés municipaux interdisant le port de signes religieux ostensibles lors du conseil municipal, mais ensuite c'est au juge administratif de juger si c'est pertinent ou pas, et donc le préfet peut intervenir en expliquant que la disposition n'est pas bonne. Là, avec votre proposition de loi, tous ces signes religieux seraient bannis. Vous visez très précisément le prosélytisme islamiste avec cette loi-là.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a une espèce d'invasion de l'espace public par le voile islamiste, la nourriture halal, les prières de rue, et on sent bien qu'il s'agit moins de la promotion d'une foi personnelle que de l'installation d'un islam dont on sait que c'est une religion politique dans l'espace français.
Dans l'espace français, exactement. Ben, c'est la même chose que pour les hijabs dans le sport également. C'est la même chose. Donc, il est à un moment donné, il faut les arrêter. Quand vous parliez de Chalon avec le maire, le juge des référés n'a rien dit, mais en 2024, le maire de Voiron avait pris le même arrêté et il a été cassé par le juge de Grenoble. Donc, on voit que, voilà, je veux dire, encore une fois, les arrêtés des maires peuvent être remis en question par les juges. Et il faut aider ces maires. Il faut donner un cadre juridique, combler ce vide juridique.
Anne-Sika, c'est une proposition de loi courageuse, c'est une proposition de loi dont on peut évidemment immédiatement vérifier la pertinence. C'est une proposition de loi que vous portez, vous, député Identité Liberté. Quelle est la chance, si je veux dire, que cette loi soit effectivement réellement discutée et ensuite réellement votée?
Alors, en effet, c'est une loi qui est co-signée par les députés RN et les députés UDR. Alors, nous attendons maintenant que les députés LR, en effet, la co-signent aussi. Et plus on aura de co-signatures et plus il y aura des gens qui signeront la pétition qui est sur mes réseaux sociaux, ça pourra faire pression pour que cette loi soit mise à l'agenda de l'Assemblée nationale.
Alors, cette pétition que vous avez mise qu'on peut trouver effectivement sur vos réseaux sociaux, c'est une pétition qui formellement oblige, dès qu'on attend 500 000 voix, à ce qu'elle soit discutée à l'Assemblée nationale. Ouais. C'est la même pétition que celle de la loi Dayan, j'espère que je prononce correctement le nom, à chaque fois je me trompe. Voilà, donc on est bien dans le cadre d'une pétition qu'on appelle tout le monde à signer, parce que dès que cette pétition atteint 500 000 voix, le règlement de l'Assemblée nationale fait qu'on est obligé de discuter. Dire, c'est un truc absolument incroyable. La démocratie s'appliquerait.
Donc, oui, alors on a...
Surprise.
Oui, là, c'est très important. Cette pétition est très importante pour donner du poids à cette proposition de loi, encore une fois.
Anne-Sika, évidemment, on est en République française, donc même si c'est le prosélytisme islamiste qui nous menace, on n'a pas le droit, je crois, d'interdire les signes uniquement islamiques. Donc vous êtes obligé de dire que ce sont tous les signes religieux ostensibles qui sont concernés par votre loi.
Alors tout à fait, ce sont tous les signes religieux ostensibles, mais encore une fois, il n'y a pas de... Personne ne se promène avec une énorme croix sur le poitrail, sur la poitrine, dans un conseil municipal. C'est assez rare. Alors, si vous voulez parler après du personnel religieux, effectivement, nous y avons pensé. Voilà, cette loi ne concernera pas. Oui.
Voilà, parce que effectivement, il m'arrive d'aller en Sarthe et donc à Solem, l'un des religieux de l'abbaye a été élu au conseil municipal. Je crois qu'il est cinquième ou sixième sur la liste. Et donc lui, son habit de tous les jours, c'est sa coule monastique. Et donc, est-ce qu'il sera obligé d'enlever sa coule monastique?
Non, parce que c'est du personnel personnel religieux. Donc effectivement, c'est pas. Le voile est un habit qui est militant, parce que ce n'est pas le personnel religieux qui porte le voile en islam. Mais, mais les personnels religieux, que ce soit chrétiens, même musulmans, pourront porter leur, peuvent porter leur habit. Mais c'est quand même une infime... C'est une...
Oui, il n'y a pas tant de moines que ça qui se présentent au conseil municipal. Et il n'y a pas tant d'imams que ça aussi qui se font élire.
De prêtres qui se font élire. Mais nous y avons pensé, en effet.
Cette loi sur le voile islamique, c'est évidemment une espèce de symbole, parce que tout commence avec Creil, où des jeunes filles tiennent absolument à aller dans leur lycée avec leur voile, et on se bat. Lionel Jospin, dont on honorait la mémoire pour une raison qui m'échappe totalement il y a quelques jours, avait refusé d'ailleurs de légiférer. C'est toujours ce voile-là qui revient, et on sent bien justement qu'il n'est pas juste un signe religieux, qu'il est un instrument de combat.
Oui, c'est un signe militant. On le voit bien, puisqu'il était finalement peu porté par les musulmans il y a des décennies. Le problème ne se posait pas. Les femmes musulmanes ne portaient pas forcément le voile. Donc les femmes musulmanes qui le portent, c'est vraiment un message militant.
Alors, vous dites qu'avec cette voie-là, vous poseriez une digue étanche contre l'entrisme islamiste.
Exactement, exactement. C'est une digue étanche qu'il est temps de monter. Parce que, encore une fois, quand on compare avec 2010, maintenant, là où on en est, où allons-nous nous arrêter ? Et c'est très important, encore une fois, de bloquer et d'envoyer un message clair aussi, que le législateur envoie un message clair en disant que la République est une et indivisible. Et encore une fois, l'élu local, c'est le représentant de l'État, c'est celui qui va célébrer des mariages, c'est celui qui va présider des commémorations du 11 novembre. Et on ne peut pas avoir de maire voilée. C'est ce qui se passera si on ne construit pas un cadre législatif solide.
Alors, en même temps, vous avez le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui va faire un numéro de claquette assez surprenant à la Grande Mosquée de Paris en expliquant qu'il n'y a aucun problème avec le voile. Il y a quand même une petite dissonance.
Ah bah oui, mais complètement. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait une dissonance avec le discours de Laurent Nunez, en effet. Et puis, mais il y a eu d'autres voix à droite qui se sont qui ont soutenu le maire de Chalon-sur-Saône. Mais encore une fois, s'il y a des dissonances avec Nunez et un accord avec certaines voix de droite, on attend en tout cas que les paroles soient suivies des faits et que les élus hors groupe RN et UDR à l'Assemblée nationale co-signent ma proposition de loi pour lui donner du poids.
Alors, cette proposition de loi, c'est une première digue. Alors, on espère qu'elle sera aussi étanche. D'abord, on espère qu'elle existera et qu'elle sera aussi étanche que vous le souhaitiez. Malgré tout, pour lutter contre l'entrisme islamique, pour lutter contre ce prosélytisme islamique, il y a sans doute d'autres mesures à prendre. Avez-vous l'impression que l'État français a vraiment pris... la mesure de cette menace, ou qu'au contraire, la France reste dans un certain déni
Oui, il y a un certain déni, effectivement, puisque en plus, si vous voulez, l'entrisme islamiste se fait à petits pas. Hein, c'est un peu la technique du voleur chinois. Donc, il demande à chaque fois quelque chose de plus. Ça a commencé, vous avez dit, avec le voile de Creil. Après, il y a eu l'hijab dans le sport. Après, à chaque fois, il y a quelque chose de plus. Après, il y a les horaires dans certaines villes, dans les piscines, qui sont réservés aux femmes, et peu à peu. Donc, on est obligé, effectivement, de réagir coup sur coup, mais l'État français ne veut pas avoir le problème, en effet. Alors, c'est un peu les 15 ans qu'on a eu d'abord de Hollande, ensuite de Macron, qui, en fait, ne veut pas avoir le problème.
Il ne faut surtout pas faire le jeu du Rassemblement national.
Non,
et donc,
surtout pas.
Sous prétexte de ne pas jouer, donc on se retrouve effectivement avec aujourd'hui, c'était un sondage qui est parti il y a quelques mois, plus de la moitié des jeunes qui se disent de confession musulmane en France considèrent que la charia est supérieure aux lois de la République.
Oui, tout à fait. Et à côté de ça, oui, c'est particulièrement marquant chez les jeunes. À côté de ça, je dois dire que j'ai reçu quelques messages sur mes réseaux de musulmans qui me disent bravo, faites quelque chose parce que voilà, on n'est pas d'accord avec, avec ce message et ce prosélytisme communautaire. Bon,
il y a et effectivement, c'est important de le noter, on entend dans l'espace public tous les musulmans qui sont vraiment islamistes et qui tiennent à, vraiment à faire avancer l'agenda plus ou moins caché des frères musulmans, alors qu'il y a des... un pourcentage non négligeable de musulmans qui n'aspirent en fait qu'à vivre normalement comme des Français, à se couler dans les mœurs et les coutumes françaises tout en pratiquant leur foi, mais sans avoir besoin qu'elle soit comme ça agressive et conquérante. Et donc ce sont ces gens-là au fait à qui non seulement on ne donne jamais la voix, mais à qui on ne donne jamais les outils en fait pour imaginer un autre islam en France.
Oui, mais surtout qu'on sait pourquoi ils sont, si ils habitent en France, c'est parce qu'à un moment donné ils ont aimé la France, ce qu'elle représente. Et on ne peut pas. On est obligé de encore une fois de leur apporter une réponse législative.
Une réponse législative. Et cette réponse législative, est-ce que c'est le premier étage d'une fusée à plusieurs étages ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez prévu d'autres propositions de loi qui permettront de faire pièce comme ça ?
Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autres propositions de loi. Hein, c'est celle-là la plus...
Non, mais elle vient de sortir, donc, on va la laisser
voilà,
vivre.
Exactement. Voilà. Mais nous serons là à chaque fois pour bloquer, en fait, pour bloquer l'avance, encore une fois, de l'entrisme islamique. Il est certain que si nous devons faire d'autres propositions de loi, nous les ferons.
Alors, on se retrouve avec donc les villes qui deviennent donc le nouveau terrain de jeu de l'islam. Il y a eu la représentation nationale et on voit, il y a même ces choses absolument surprenantes avec ces élections municipales où un candidat musulman de droite se désiste en faveur d'un candidat musulman de gauche, un candidat issu de la diversité, pardon, de droite se désiste en faveur d'un candidat issu de la diversité de gauche parce que donc du coup c'est son réflexe communautaire qui joue avant son étiquette politique, mais on voit aussi que dans les collectivités locales il y a les menus adaptés dans les cantines pour ceux qui veulent manger halal, il y a même des municipalités qui commencent à expliquer qu'on va aménager les horaires municipaux pendant le ramadan pour faire en sorte de que ceux qui pratiquent la foi musulmane et qui sont fonctionnaires municipaux puissent pratiquer leur foi plutôt qu'assurer le service. Donc, cette brèche qui était ouverte et que vous tentez de colmater, notamment sur le voile islamique, on voit que les collectivités sont un vaste champ, en fait, d'intervention possible pour faire pièce à l'islamisme.
Tout à fait, exactement. Et encore une fois, la différence se voit dans les maires qui résistent à ce communautarisme et à ceux qui le laissent faire ou même le favorisent. Donc, si cette loi... est nécessaire pour le voile islamique, peut-être il faudra légiférer sur le reste pour garder dans les communes la neutralité en fait du service public. C'est ça qui est important. Parce que si le voile est porté ça sera la fin en fait, ça sera une attaque contre la neutralité du service public. C'est très grave, c'est très grave.
Alors, Najat Vallaud-Belkacem, à un moment donné, avait dit on ne va pas empêcher les mères musulmanes d'accompagner les sorties d'école, mais il faut empêcher qu'elles soient prosélytes quand elles le font. Est-ce que ça vous paraît une mesure de bon sens ? C'est-à-dire on ne va pas non plus empêcher les gens d'expliquer qu'ils sont religieux. C'est-à-dire, voilà, après tout, si j'ai envie de porter un t-shirt avec Notre-Dame de Guadeloupe, très bien, libre à moi de le faire, alors peut-être pas l'antenne. Mais est-ce qu'on peut comme ça montrer que la religion n'a pas à être bannie de l'espace public, mais en revanche, elle n'a pas à être, surtout quand il s'agit d'une religion qui rentre en conflit avec la République française, elle n'a pas à être promue dès qu'il s'agit d'une fonction officielle.
Oui, on dit bien les signes religieux ostensibles. Donc peut-être qu'il y a peut-être un moyen de porter le voile pour ces mamans de manière plus discrète.
D'accord.
Ça, c'est encore autre chose.
Bon. Bon, on peut aménager. Est-ce que vous avez bon espoir que votre démarche, à défaut d'aboutir, même si évidemment nous souhaitons qu'elle aboutisse, et rappelons à tous les auditeurs de Radio Courtoisie, donc il faut aller sur les réseaux sociaux d'Anne Sicard pour signer cette pétition et la faire signer, puisque voilà, c'est un outil démocratique qui est à notre disposition. Ce serait dommage qu'on ne l'utilise pas. Est-ce que vous avez bon espoir que, peu à peu, cette position de bon sens qui est la vôtre, et en même temps d'alerte qui est la vôtre, va finir par réunir peut-être d'autres députés, mais surtout faire en sorte qu'il y ait une espèce de coalition des élus, que en fait des gens comme David Lisnard et d'autres soient capables de la reprendre à leur compte.
Alors justement, David Lisnard, donc le président de l'Association des maires de France, encore une fois déclaré son soutien au maire de Châlons. J'engage David Lisnard à signer la pétition, puisque il ne peut pas co-signer ma proposition parce qu'il n'est pas député. Et effectivement, nous avons bon espoir que le bon sens le remporte. Qu'il comprenne David Lisnard comme d'autres élus se rendent compte qu'en fait la maison est en feu et donc ils n'ont pas besoin de regarder qui va leur passer les seaux d'eau pour éteindre l'incendie. Ça serait quand même bien qu'il le réalise enfin.
Enfin, voilà. Pour mettre au point une proposition de loi comme celle-ci, vous vous êtes entouré justement de maires et d'élus municipaux, vous avez recueilli leur avis, c'est une proposition de loi que vous leur avez présentée ou que vous comptez faire tour de France?
Oui, un tour de France, mais déjà, je pense, il y a déjà, je vous dis encore une fois, des réactions, parce que ce qu'il y a de terrible dans cette affaire, c'est qu'on a parlé de grandes villes, de villes, etc. Mais on m'envoie des photos de conseils municipaux de petites villes avec des femmes voilées. En m'appelant au secours, en fait, en me disant regardez.
Radar.
Exactement, parce que ce sont des petites communes. En particulier, on m'a envoyé une photo de l'Ain, en me montrant un petit conseil municipal avec très peu d'élus. Et déjà une femme voilée, donc ça progresse. Donc à un moment donné, il faut stopper.
Merci beaucoup Anne Sicard. Quand on parle de vos réseaux sociaux, donc vous avez un compte X, vous avez un compte Facebook, si je ne m'abuse.
Oui, c'est ça, Facebook, Instagram. Et puis aussi, la pétition, on peut la trouver aussi sur le site les réseaux sociaux d'Identité et Liberté.
Voilà, et donc elle a un nom, cette pétition?
Alors, pétition, alors...
Non, pardonnez-moi. Je voulais pas que ce soit une question piège. Voilà, bon, en tout cas, vous allez sur le site d'Identité et Liberté.
Voilà. Forcément, contre le voile, vous, je crois que c'est
pétition contre le voile.
Contre le voile.
Tout le monde va trouver. Mais merci beaucoup, Anne Sicard, d'avoir été avec nous ce matin.
Merci de votre invitation.
Merci pour votre combat.
Merci beaucoup.
Ligne droite.
Très bien. Et bonjour à Pascal Pointu, qui va nous parler d'accordéon, enfin, depuis le temps qu'on attendait ça.
Bonjour Richard, oui. Pour éviter un peu la sinistrose, on va mettre un peu de musique dans nos propos ce matin. Oui, donc je vais vous parler du lien, l'éternel lien social avec l'accordéon, puisque l'accordéon est né en Autriche il n'y a pas si longtemps que cela, d'ailleurs. Il n'y a même pas 200 ans, hein, en 1829. Et donc, c'est l'instrument de musique si populaire, malgré une petite période de désaffection entre les années 1980 et 1990. Mais le retour du piano à bretelles est acté aujourd'hui dans notre société. Mais avant tout cela, l'accordéon, c'est la conjugaison réussie de la tradition, de l'assimilation du lien social. C'est exceptionnel et si rare de voir un tel rapport humain grâce à un instrument de musique. Parce que, effectivement, au milieu du 19e siècle, la France a acté sa révolution industrielle et, bien entendu, Paris en a bénéficié et Paris a vu arriver d'importantes vagues migratoires d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de Polonais, de Sud-Américains qui arrivaient en nombre pour fuir la misère et profiter de cette révolution industrielle qui s'ouvrait. Et dans le même temps, il y avait cet exode rural français, des gens qui quittaient les campagnes pour venir chercher une autre vie à Paris, et notamment les Auvergnats. Et donc c'est à partir du milieu du 19e siècle jusque environ au premier tiers du 20e siècle où les Auvergnats étaient la composition migratoire la plus importante de française. Et on voyait, par exemple, mes ancêtres sont venus sur le quartier de la Bastille au départ et ouvrir les commerces que l'on a connus et ce qu'on a appelé les bougnats. Alors les bougnats, c'était les cafés charbon et à la fin d'une journée dure de labeur, ils avaient le goût encore de s'amuser et de créer des bals pour se retrouver grâce à la musette. Alors, le musette, puisque c'était un instrument de musique, hein, qui est devenu, qui était un cousin en quelque sorte de la cornemuse et qui s'est appelé ensuite cabrette. Et la cabrette a animé des bals populaires. Et c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs ensuite les bals musettes, puisque c'était animé par cet instrument de musique. Et les Italiens sont venus se joindre à la fête, eux aussi harassés par des journées de labeur. Et les Italiens avaient remplacé les Autrichiens sur l'accordéon et avaient pris la main sur la fabrication des accordéons dans l'Europe. Et les Italiens ont apporté l'accordéon dans les bals populaires créés par les Auvergnats à Paris, et ça à partir du 19e siècle, début du 20e. Et on a vu donc à partir de ce moment-là, l'accordéon qui a détrôné la cabrette, et bien entendu, on a vu tous ces bals populaires qui se sont multipliés, et grâce à cet instrument de musique qui a permis, si vous voulez, de permettre les danses d'hier et d'aujourd'hui, la valse, la java, le foxtrot, le pasodoble, le tango et bien d'autres. Et son cousin sud-américain, le bandoneon, qui a notamment magnifié le tango, et les années d'or de l'accordéon se sont ouvertes, avec même une touche de jazz manouche, avec Joe Privat par exemple. Et on ne peut pas parler d'accordéon sans citer, bien entendu, Yvette Horner, qui perchait avec son piano à bretelles de 15 kilos sur des véhicules lors du Tour de France entre 1952 et 1964, animait la caravane du Tour de France et les soirées du Tour de France. Et que dire aussi d'André Verschuren, Aimable, Ségurel, Galliano, Marcel Azola. Donc tous ces gens-là qui ont magnifié l'accordéon. L'accordéon est présent dans notre ruralité, et bon nombre d'orchestres, et notamment mon ami Michel Chevarin, que je connais depuis plus de 30 ans, qui a pratiquement 70 ans, et qui joue 5 jours sur 7 à partir des beaux jours, et il arrive à faire quand même des bals populaires le samedi soir, et de jouer le dimanche après-midi à 70 ans, et pendant 6 heures sans relâche, sans pause et sans rien, dans des salles surchauffées. Et bien entendu, ce lien social magnifique qu'est l'accordéon, ce lien social, vous le retrouvez aussi lors des communions ou lors des mariages, puisqu'il y a toujours un tonton qui sait jouer de l'accordéon, qui anime les après-repas. Et grâce à cet instrument de musique, on a vu maintenant se moderniser grâce aussi au talent de Claudio Capeo, par exemple, hein, qui a su mettre l'accordéon au goût du jour. Mais on avait auparavant Édith Piaf qui adorait l'accordéon, qui voulait absolument avoir l'accordéon dans ses tours. Mais cet instrument de musique s'est féminisé avec, par exemple, Karen Neuville, Anaïs Bessière, Adèle Martin ou Sylvie Pulès, la cantalienne, Laura Forestier. Donc, si vous voulez, cet accordéon, ce lien social, c'est quand même quelque chose qui est très fort pour nos ruralités, puisque l'accordéon n'est pas mort, car nos traditions sont immortelles.
Eh ben, merci beaucoup, Pascal Pointu. Ce goût de l'accordéon vous est venu quand vous étiez tout petit, parce qu'effectivement, l'un de vos oncles jouait à chaque fête familiale.
C'est cela même. C'est cela même. Moi, je suis issu d'une famille d'ouvriers. Mes parents ont voulu que je joue de l'accordéon à 12 ans, hein, 10-12 ans, 12-13 ans. J'étais un piètre accordéoniste, d'ailleurs. Hein. J'ai pas beaucoup persévéré dans cette voie-là. Bon, mes moyens étant limités, j'ai passé la main à d'autres. Mais effectivement, j'étais dans une famille où j'avais un tonton un peu éloigné qui, lui aussi, travaillait pour Michelin et pour arrondir un peu les fins de mois, animait des bals populaires dans la banlieue de Clermont-Ferrand, à Beaumont notamment. Et effectivement, on a été baigné dans l'accordéon. Moi, j'avais un maître accordéoniste qui s'appelait Claude Pachot. Et si vous voulez, tous ces gens-là, cet instrument est fabuleux parce que quand je vois aujourd'hui mon ami Michel Chevarin animer des bals populaires dans des tout petits villages, vous prenez Médérol qui est à 5 minutes de chez moi, il y a 160 habitants à l'année, et quand il y a la fête patronale de Médérolles au mois d'août, il y a 300 personnes qui dansent.
Et oui, incroyable.
On double la capacité du... Et tout ça, si vous voulez, vous les voyez jouer, ces gens-là, ils donnent du bonheur. Michel Chevarin, ça fait 50 ans qu'il roule sa bosse à jouer de l'accordéon partout en France. Ça fait 50 ans qu'il voit des gens se rencontrer grâce à lui, grâce à l'accordéon, grâce à son orchestre et grâce à cette passion.
Eh bien, merci beaucoup Pascal Pointu de nous avoir apporté ce moment de joie ce matin, et à la semaine prochaine.